Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau président pour la France, Emmanuel Macron réélu avec 58,54% des voix exprimées contre 41,4% pour la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Des chiffres derrière lesquels se cache celui record de l'abstention, 28,2%. C'est presque 4 points de plus qu'en 2017 au second tour et le niveau le plus haut depuis 1969. Bonjour Léa-Lisa Westerhoff.
Bonjour.
Cette abstention, c'est un mal français ou c'est aussi un enjeu ailleurs en Europe?
Eh bien, clairement, le problème est partagé sur l'ensemble du continent. En fait, si on compare les élections cruciales, celles avec un enjeu déterminant comme la présidentielle en France ou les législatives en Allemagne, par exemple, l'abstention ou la participation, suivant comment on le tourne, se situe à peu près au même niveau, à quelques points près, dans les démocraties d'Europe de l'Ouest. En Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, par exemple, les taux de participation tournent autour de 70-75% depuis 10 ans. Mais cette participation, elle a baissé depuis les années 90. L'abstention, c'est donc bien un mal qui se confirme dans tous les pays européens où voter n'est pas obligatoire. Et en réalité, les pays les plus touchés par la démobilisation électorale sont ceux d'Europe centrale et orientale. Ainsi, en Pologne, en 2020, le président a été élu avec un peu plus de 51% de participation. Ça veut dire que presque un Polonais sur deux n'est pas allé voter ce jour-là. Un chiffre qui tombe à 31% en Roumanie, 38% en Bulgarie lors des dernières législatives. Mais là, ce n'est pas nouveau. Dans ces pays, la désaffection vis-à-vis des élections est arrivée très tôt après la chute du mur.
Et y a-t-il des solutions justement pour lutter contre cette abstention?
Eh bien, il y a le vote électronique d'abord. C'était d'ailleurs une promesse électorale d'Emmanuel Macron en 2017. Toutes les études montrent que cela augmenterait la participation. Autoriser à voter sur deux jours, par exemple, et par correspondance, ferait augmenter de 5 points la participation. Mais en France, le vote électronique a finalement été abandonné pour cette présidentielle au motif que l'enjeu était trop grand pour prendre le risque de contestation. Ce mode de vote devrait par contre être testé lors des législatives qui se tiendront en juin pour les Français de l'étranger. Autre mesure qui avait été proposée par la candidate socialiste Anne Hidalgo, le vote à partir de 16 ans. En Europe, l'Autriche, Malte et l'Écosse l'appliquent déjà. Et ça marche plutôt bien. En Autriche, ça donnait de bons résultats avec une participation des 16-17 ans plus élevée que celle des autres primo-votants plus âgés. Enfin, le vote obligatoire en Europe, 5 pays l'imposent, la Belgique, le Luxembourg, la Grèce, la Bulgarie et le Liechtenstein qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et finalement, c'est ça qui marche le mieux sans aucun doute. En Belgique, par exemple, la participation tourne à chaque fois autour de 90%. Le risque, si on ne vote pas, une amende de 40 à 80 euros ou 200 euros en cas de récidive, Frédéric.
Merci beaucoup, Léa-Lisa Westerhoff. La question de l'écologie, absente des débats pour le premier tour de la présidentielle en France, est revenue en force lors des derniers jours de campagne. Les promesses du candidat président sont là. Plus de recours au gaz, au pétrole et au charbon dans un futur qui n'est pas déterminé et un Premier ministre chargé de la transition énergétique. Du côté du bilan, la France est, il faut bien le dire, à la peine avec des transports qui représentent toujours 30% des émissions de gaz à effet de serre. Pour les marchandises, on utilise 9 fois sur 10 des camions dans l'Hexagone. La France investit dans le fret ferroviaire, mais deux fois moins que ses voisins allemands ou autrichiens. Signe que l'on s'engage tout de même dans la bonne direction. En octobre dernier, un train de marchandises historique a été réhabilité après 2 années d'arrêt. C'est le train des primeurs qui fournit le marché international de Rungis en région parisienne. Et c'est le reportage d'Alice Roujat.
Il est 2h45 ce matin et pile à l'heure, le train des primeurs atteint le quai tout éclairé du célèbre marché de Gros Parisien. 12 wagons réfrigérés charrient des fruits et légumes depuis Perpignan. Le déchargement a peine commencé, une odeur d'ananas flotte dans les airs.
Les gens ne connaissent pas, mais à Rungis, à l'intérieur de Rungis, nous avons une gare ferroviaire dédiée aux fruits et légumes.
Ali Megbi est le responsable d'exploitation de la société Primever, en charge des marchandises.
On commence également la pastèque.
Des champignons, des courges, des cerises.
Les premières cerises qui démarrent. Vraiment tout ce qui est fruits et légumes qui arrivent du sud et que vous trouvez sur les marchés ou dans votre frigo.
Des trains, le marché de Rungis en a toujours vu arriver, tout comme Farid, qui travaille ici depuis plus de 50 ans maintenant. Pour le repérer sur le quai, c'est facile. Trois gros artichauts ornent son transpalette.
Mais même j'en ai vu quatre par jour, des trains. Ça met de partout. De Bretagne, il y avait des trains. Des trains de partout, de toute la région de France.
Tu peux expliquer à l'époque, c'était plutôt du vrac. Aujourd'hui, on a la marchandise sur palette.
Tout était en vrac.
Vous dites, c'est de la rigolade là ?
Là, ici, là, c'est de la rigolade. On fait ça sur une jambe. Moi, à 73 ans, je fais ça tranquille.
Oui, parce qu'auparavant, le train était un moyen de transport privilégié pour les marchandises. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. 90% du transport se fait par la route. Mais si le train des primeurs a repris du service après 2 années d'arrêt, c'est parce que le gouvernement entend mettre l'accent sur le fret ferroviaire et doubler sa part d'ici 2030. Privilégier le rail, c'est plus écolo. Ruben Fischer est membre du Shift Project, un think tank qui fournit des données pour un avenir décarboné.
Les études montrent qu'en gros, le train est 11 fois moins émissif que les poids lourds routiers thermiques. Donc en gros, si on se réfère à la stratégie nationale bas carbone, en gros le plan qui dit comment est-ce que la France doit décarboner pour arriver à atteindre les objectifs des accords de Paris, transporter des trucs par un moyen qui permet de diviser par 10 les émissions, ça paraît quand même une super bonne idée. Notre étude montre que nous pouvons décarboner le fret sans faire appel à des technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est quand même un truc super, c'est de oui, on peut y arriver.
Un train de marchandises comme celui-ci, c'est 18 camions de moins sur les routes. Avec 5 liaisons par semaine, sur une année, cela représente 9000 camions en moins. Outre de moins fortes émissions de carbone, on estime que le transport ferroviaire consomme 6 fois moins d'énergie car il est électrique. Mais une fois déchargé du train, les fruits et légumes doivent encore être transportés jusqu'à des entrepôts, des marchés ou des magasins. Il faut alors allier train et camion, comme l'explique Ivan Stepenzinski du groupement national des transports combinés.
Le transport combiné rail-route offre la capacité d'allier la puissance du rail et la souplesse de la route. La capillarité permet d'aller dans n'importe quelle entreprise de production ou de logistique avec un camion pour effectuer 50-60 km, charger, remettre son chargement sur un train qui lui va faire du longue distance, être récupéré ce chargement à destination, faire les 30-40 km qui restent. Donc là, également capillarité routière, avec la souplesse donc, que offre le transport routier, pour pouvoir livrer le destinataire.
Avec des camions roulant à l'hydrogène ou à l'électrique sur des petites distances, le fret peut effectivement être décarboné. Et à l'heure de l'urgence climatique, le gouvernement compte sur le triplement du transport combiné pour atteindre ses objectifs. D'ici 2030, 1/5 du fret devrait être acheminé par des trains.
It is essentially like a subway or tube system.
Et pour le transport de marchandises, les Suisses ambitionnent un train souterrain qui a des airs de science-fiction. Imaginez des robots chargés de marchandises roulant H24 sous la surface du sol dans des tunnels longs de plusieurs centaines de kilomètres entre les plus grandes villes du pays. À Genève, Jérémy Lanche.
Contrairement aux idées reçues, le gruyère suisse n'a pas de trous, mais le sous-sol de la Suisse, lui, pourrait en être bientôt rempli avec cargo souterrain. On parle de tunnels à 3 voies de 6 mètres de diamètre, enfouis à 40 mètres de profondeur et reliant toutes les grandes villes de Suisse. À l'intérieur, des petits véhicules électriques autonomes chargés de marchandises. Le projet n'a que des avantages, estime le parlementaire Olivier Français, par ailleurs membre du comité de soutien à cargo souterrain.
Le réseau routier, il a été dimensionné pour des projections d'environ 20 ans environ, et puis il y avait des projections qui voyaient grand, quoi. Or, il se rend compte que même celui qui voyait grand il y a 20 ans, dans la mi-film, on te dit aujourd'hui, tellement le réseau est saturé. Et il faut trouver une alternative. Et pour ma part, j'ai toujours milité pour le sous-sol, puisqu'il n'est pas entravé par d'autres circulations et qu'on peut transporter tout et un peu n'importe quoi.
Les partisans de cargo souterrain promettent un système écologique uniquement alimenté par des énergies renouvelables et indolore pour le porte-monnaie des Suisses, puisque les 35 milliards de francs, à peu près 34 millions d'euros nécessaires à sa réalisation, sont portés par un conglomérat de grandes entreprises.
On retourne un petit peu à ce qui s'est passé à la fin du 19e et 20e siècle, quand les banquiers anglais, français, on dit, bah, tiens, on va faire un chemin de fer. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah, oui, on vous donne la possibilité de le faire. Malheureusement, ça n'a pas joué économiquement. Après, c'est devenu dans la domaine public. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'argent de l'État, d'autant plus qu'ils démontrent qu'ils peuvent s'autofinancer le projet.
Ce n'est pas la première fois que la Suisse essaie d'utiliser son sous-sol pour le transport. Dans les années 90, le pays avait financé la création d'un métro futuriste capable de transporter des voyageurs à plus de 500 km/h entre Genève et Zurich. Trop compliqué à réaliser, il avait dû être abandonné.
All aboard for Night Train!
Pour le transport de voyageurs, le train aussi est plébiscité comme un des moyens de transport les plus respectueux de l'environnement. Entre 20 fois et 300 fois moins émetteur de CO2 que l'avion, selon les modes de calcul, surtout pour les moyennes distances. Après des années de fermeture de lignes emblématiques, le train de nuit fait donc son grand retour entre les grandes villes européennes. Bonjour Julien Méchaussy.
Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Berlin, Julien, et nous allons chez vous car l'Allemagne se retrouve au cœur de ce renouveau du train de nuit.
Oui, et ça s'explique surtout par la position centrale du pays entre Europe de l'Ouest et de l'Est, du Sud et du Nord, à l'image de deux nouvelles lignes mises en service en décembre dernier. La première qui relie Vienne en Autriche à Paris en passant par Munich, et la seconde entre Zurich et Amsterdam avec un arrêt à Cologne.
Certains parlent même d'une offensive à grande échelle du train de nuit, offensive portée par les sociétés historiques de chemin de fer face à l'urgence climatique.
Pour poursuivre sur l'exemple des deux lignes que nous évoquions précédemment, elles sont en effet le fruit d'une coopération étroite entre la SNCF pour la France, le BB autrichienne, la Deutsche Bahn allemande, la SBB suisse et le NS néerlandais. Et les responsables de la Deutsche Bahn le disent très clairement, il s'agit d'allier les forces des grandes compagnies européennes pour promouvoir le train de nuit et concurrencer les vols à bas prix sur courte distance. Si ces compagnies communiquent beaucoup sur les avantages écologiques du train de nuit face à l'avion, il ne faudrait pas oublier que ce sont bien elles qui avaient fermé des lignes relancées aujourd'hui et jugées il y a encore quelques années pas assez rentables. Ainsi, le Vienne-Paris, qui circule 3 fois par semaine, refait vivre un bout du célèbre Orient Express qui circulait jusqu'en 2007. On peut aussi citer les lignes nocturnes Berlin-Bruxelles et Berlin-Paris annoncées pour décembre 2023. Ici aussi des lignes supprimées pourtant il y a peu.
Et cette renaissance du train de nuit attire également de nombreux nouveaux acteurs privés, Julien.
Oui, et la liste des nouvelles lignes privées annoncées ne cesse de s'allonger. À partir de cet été, 2 entrepreneurs originaires des Pays-Bas lancent ainsi un nouveau train de nuit qui traversera toute l'Europe, de Bruxelles jusqu'à Prague en République tchèque, et passera par Amsterdam, Hanovre et Berlin. Autres exemples toujours nés d'une initiative privée et qui seront lancées dès la fin de l'année, les lignes Stockholm-Hambourg et Zurich-Rome. Comme les compagnies historiques, ces nouveaux acteurs du ferroviaire aux allures de start-up mettent en avant les avantages climatiques, mais ils misent aussi sur la nostalgie du train de nuit. La société privée française Midnight Trains projette ainsi de relier Paris à une dizaine de grandes villes européennes et promet des hôtels sur rail, avec pour ambition affichée le réenchantement des trains de nuit.
Merci Julien Méchaussy à Berlin. Et on se projette à nouveau dans le train du futur, celui-là pourra voir le jour dans la riche région de Vénétie, dans le nord-est de l'Italie. L'Hyperloop, un train supersonique qui pourra rouler à 1200 km/h, pourrait tout simplement révolutionner les transports du futur pour les voyageurs et pour le fret. À Rome, les explications d'Olivier Bonnel.
Relier Venise à Padoue en 5 minutes, Milan-Turin en 7 minutes et même à terme Rome-Vérone en 25 minutes, l'Hyperloop autorise tous les rêves. C'est la région Vénétie qui veut accélérer sur cette technologie révolutionnaire lancée aux États-Unis en 2013 par le milliardaire Elon Musk. Le principe est celui de faire circuler un train dans un tube vidé de son air grâce à des champs magnétiques. L'Hyperloop peut ainsi atteindre 1200 km/h. Actuellement, seulement 5 entreprises dans le monde sont capables de développer cette technologie. Le 18 mars dernier, la Vénétie a signé un protocole d'accord pour étudier la faisabilité du projet. Si tout se passe bien, un Hyperloop devrait être construit à partir de septembre 2024 pour une mise en service en 2026. Le premier tronçon devrait relier Venise à Padoue, là même où fut construite la première autoroute en Italie, et concerner d'abord le transport de marchandises avant de pouvoir à terme embarquer des passagers. La région du nord-est de l'Italie compte sur le plan de relance européen pour financer en partie le chantier, estimé à un demi-milliard d'euros. Si le train supersonique sera entièrement vert, son impact sur le paysage sera néanmoins déterminant. L'Hyperloop pourrait en effet aussi bien circuler sous terre que sur des rails montés sur pylônes.
Et si le train fait rêver, ce n'est pas seulement parce qu'il constitue une solution d'avenir. Avec ses 17 000 km de voies ferrées, le train italien a aussi un grand potentiel enchanteur. Lucie Tournebis, blogueuse de voyage, vient de publier « L'Italie en train » chez Hachette. Une richesse encore trop méconnue, y compris par les Italiens eux-mêmes, comme elle l'a confié à Olivier Bonal.
On peut vraiment faire beaucoup de choses en train en Italie. Et malgré ça, les Italiens n'ont pas toujours une très bonne image de ce réseau et l'accusent un petit peu de tous les maux, à commencer par les retards qui seraient systématiques. Il y a une mauvaise image, ce qui fait que quand j'ai commencé à travailler sur ce livre et que j'en parlais avec des amis, avec des Italiens en général ici, les gens me disaient « mais t'es folle de faire un livre sur les trains en Italie, mais notre réseau est pourri ». Et en fait, c'est un peu un cliché. Finalement, les Italiens sont très sévères. Et on dirait qu'ils n'ont pas révisé leur jugement depuis longtemps sur les trains. Et aussi, souvent, les gens qui ont le jugement le plus sévère, c'est ceux qui utilisent le moins le train.
Où en est la réhabilitation des lignes ferroviaires en Italie ?
Alors, il y a un gros projet de valorisation du patrimoine ferroviaire qui voit la réhabilitation de lignes qui sont fermées et qui sont surnommées rami secchi, les branches sèches, parce qu'elles ne sont pas connectées à d'autres parties du réseau. Et cette valorisation, elle passe par l'utilisation des trains d'époque qui circulent voilà, le week-end ou à certaines occasions et qui redonnent un petit peu une image positive au voyage en train. Mais moi, je pense que ça devrait s'accompagner aussi d'une valorisation du train comme un moyen de transport en général et pas uniquement en tant que moyen de transport touristique.
Est-ce qu'il y a une anecdote qui vous a particulièrement marqué lors de vos nombreux voyages en train ?
Par exemple, quand j'étais en Calabre, le train en Calabre, c'est un peu l'un des plus sportifs. C'est vrai que quand on voyage en Calabre ou en Sardaigne aussi, on comprend un petit peu plus ce que veulent dire les Italiens quand ils critiquent leur train. Parce que, bon, il y a moins de lignes. Mais je me souviens, j'étais à la gare de la Lamezia Terme et les trains là-bas fonctionnent au diesel. Donc, il y a cette vieille machine qui arrive et il n'y a pas de passage souterrain dans cette gare parce qu'elle est vraiment toute petite. Donc, tu traverses les rails. Et en fait, c'était que des gens qui allaient à la plage. Donc, les gens étaient avec les matelas gonflables, les bouées. Et il y avait aussi les vendeurs ambulants à bord du train qui vendaient les seaux, les jouets, les râteaux. Donc, c'était assez pittoresque, on peut dire, de prendre ce train qui voyage ensuite au milieu des cactus et des filets de barbarie pour atteindre les côtes. Avec tout le monde qui est vraiment en ambiance de plage déjà à bord du train, c'était rigolo.
Une des qualités du train italien, c'est aussi les nombreux trains de nuit, et là aussi c'est une expérience.
On peut se déplacer à l'intérieur de l'Italie en train de nuit, et il y a beaucoup de lignes encore, contrairement à la France, qui elles n'ont pas été fermées en Italie. Le train de nuit, c'est une bonne alternative, par exemple, pour faire un Milan-Bari à moindre coût, en s'endormant à 23h, on part de Milan, il me semble, et on arrive à 6h30 du matin à Bari, juste à l'heure du lever de soleil et de l'ouverture des cafés. C'est assez sympa. C'est une expérience au train de nuit, notamment la plus spectaculaire, c'est évidemment celle de l'arrivée en Sicile en train de nuit, puisque là, on a carrément le train qui traverse le détroit en embarquant sur le ferry. Et donc, on peut tout à fait se réveiller sans s'être rendu compte de rien, comme ça m'est arrivé une fois, et de regarder par la fenêtre. Et là, on a la lumière du matin qui baigne les maisons de Messine, et on est un peu déboussolé, et ça y est, on est en Sicile. C'est vraiment magique.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Donatien Cahut. Retrouvez-nous sur notre site. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. À demain.